il n'y a plus de frontières et qu'effectivement il faut pouvoir appréhender un monde nouveau et que la dimension internationale, on le voit bien, apporte un élément de complexité supplémentaire puisqu'il va y avoir une interpénétration de systèmes juridiques qui sont très différents. Et l'illustration qui était donnée avec le Patriot Act, on le retrouve avec de très nombreuses législations américaines. La dernière en date, FACTA, qui concerne le souci de l'administration fiscale américaine, on peut la comprendre, d'identifier où sont ses ressortissants partout dans le monde de façon à pouvoir leur faire payer leurs impôts. Et ceci nécessitant de la part de toutes les banques, pas simplement évidemment les banques américaines, mais toutes banques, de faire remonter des informations jusqu'à cette administration fiscale. Donc il y a un projet de convention négocié au plan européen parce que bien évidemment il faut trouver un socle juridique. Nous allons maintenant nous tourner vers les fichiers de police et l'administration numérique face à cette nouvelle ère. Quel est le foisonnement de fichiers que l'on connaît dans le domaine de la police? C'est vrai qu'à titre d'illustration, en 2011, la CNIL a rendu plus de 18 délibérations sur de nouveaux traitements, de nouveaux fichiers. Puisque dans ce secteur, comme tant d'autres, lorsqu'on identifie un problème, la tentation est immédiatement de créer un fichier. Donc je laisse la parole à Serge Slama, maître de conférence en droit public à l'Université d'Evry et par ailleurs membre du Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux. Merci.
Alors je vais mettre mes pas dans ceux de Monsieur Lavenu. Donc c'est pratique comme je parle dans les derniers qu'il n'y a plus grand monde et que vous êtes pressé de partir. Et donc déjà il a défloré bien le sujet, ce qui est un peu normal. J'ai été son étudiant il y a longtemps, il s'en rappelait pas, mais à Lille, puisque je suis lillois d'origine et je l'ai eu en amphi. Alors je vais peut-être faire comme lui un peu le Cassandre ou le Caton. Je crois j'ai la même conviction universitaire que comme universitaire, je suis là pas pour vanter les mérites de l'État que ça fonctionne bien, mais plutôt dire ce qui fonctionne pas. Et critiquer et éventuellement faire des propositions. Simplement, par rapport à M. Lavenu, je pense qu'il y a le système de fichiers, notamment de fichage de police en France, ce n'est pas un système de surveillance généralisée de la population, comme le décrit Delmas Marty sur les politiques pénales. Je pense plutôt qu'on est dans un système rhizomique décrit par Deleuze, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez diffus, avec des racines qui va très loin et qui peut attraper un peu partout. C'est-à-dire, dans tous les moments de la vie sociale, on peut être fiché d'une façon ou d'une autre, mais il n'y a pas de cerveau central qui pilote à la 1984 le système de fichiers de police. C'est pas la volonté de l'État. On est heureusement dans un état de droit, avec un certain nombre de contrôles, je vais les rappeler. Mais on est tout de même toujours avec ce danger potentiel d'un fichage généralisé de la population. Alors c'est d'ailleurs, je vais pas pouvoir faire de l'historique, mais je renvoie aux travaux de Gérard Noiriel ou de Pierre Piazza, qui ont très bien démontré comment historiquement la construction de l'État-nation s'est faite avec des systèmes de contrôle. Alors on peut remonter à l'époque de la Révolution, de Napoléon avec Fouché, pardon, du carnet anthropométrique en 1912 pour contrôler les gens du voyage, ce qu'on appelle aujourd'hui les Roms, de l'affaire des fiches en 1905 au moment du gouvernement Combes, ou du fichier des Juifs pour parler de la période de Vichy. Il y a pas mal de périodes de l'histoire française qui montrent comment l'État-nation ressent le besoin de ficher, de contrôler la population, de centraliser les données, etc. On a parlé aussi tout à l'heure du fichier Safari qui était un peu l'exemple typique et qui a valu d'ailleurs la création de la CNIL suite à cette affaire du fichier Safari. Alors, sur les fichiers de police, je vais venir à une histoire beaucoup plus récente. L'histoire, d'ailleurs, dans l'histoire symbole, c'est un peu le fichier des renseignements généraux. Parce qu'il y a deux temps du fichier des renseignements généraux qui a été deux moments de remise en cause des fichiers et de réflexion sur les fichiers de police. Le premier temps, il est peut-être oublié aujourd'hui, mais le fichier des renseignements généraux a été légalisé en 89-90 par le gouvernement Rocard et le gouvernement Cresson. Alors je vous rappelle un petit peu ce qui s'était passé à l'époque. Il y a une petite histoire qui n'est pas très connue, moi je la connais parce que c'est ma directrice de thèse, mais Daniel Auchac avait un nom qui était déformé, il y avait un S. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des écrits de Daniel Auchac d'avant 84, mais c'était Auchac avec un S. Et à un moment donné, elle demande à rectifier son nom, à retrouver son nom d'origine. Et elle a un entretien dans le cadre de la procédure d'époque à la préfecture de police. Et la personne lui sort des informations sur sa vie privée. Donc elle se demande comment... ils ont eu ces informations sur sa vie privée, et en fait c'était dans le fichier des renseignements généraux, donc elle demande la communication du fichier. À l'époque, il n'y avait pas d'accès, même indirect, au fichier de la CNIL, puisqu'il n'y avait aucun décret qui avait été publié pour permettre l'accès indirect. Bon, finalement, elle a eu sa fiche, elle a fait un recours devant le TA, puis le Conseil d'État, il y a un arrêt de chèque de 88 sur ce problème de l'accès indirect au fichier des renseignements généraux. Ce qui a valu d'ailleurs plus tard, au moment de la politique polémique du gouvernement Rocard puis du gouvernement Cresson, à la légalisation du fichier des renseignements généraux. Mais on a complètement oublié que quand Rocard, avec Jean-Marc Sauvé, hein, l'actuel vice-président du Conseil d'État, comme directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, propose la création, lui il veut juste légaliser une chose inexistante, mais il reprend les données qui existaient. C'est des données sensibles, c'est-à-dire un fichage ethnique, racial, et l'orientation sexuelle, enfin les renseignements généraux, ils mettaient un peu de tout dans les fiches. Et donc en fait, ils consolidaient ce qui existait, et donc il y avait un fichage ethnique, etc., de la population. Ça avait fait un scandale à l'époque, il y a eu une marche arrière du gouvernement, il y a une nouvelle réflexion, un nouveau ministre de l'Intérieur et un nouveau Premier ministre, et finalement, il y a eu ce fameux fichier sur les renseignements généraux. Donc ça, c'est 89-90 dans ces eaux-là. Je vous rappelle, l'autre polémique, c'est 2008-2009 à peu près, qui a d'ailleurs valu le rapport de principe sur les fichiers, le rapport Bateau-Benisti. À ce moment-là, vous rappelez, c'est Brice Hortefeux qui est ministre de l'Intérieur, si je me trompe pas. Oui. Et Brice Hortefeux, de la même façon, au moment de la fusion entre la fusion du renseignement intérieur, la création des CRI, etc., il y avait deux fichiers. Il y avait un fichier de terrorisme, un fichier des renseignements généraux. Il y en avait même plus en réalité. Et l'idée, c'est de fusionner des fichiers, donc de faire Christina, qui est le fichier du terrorisme, qui n'est pas publié au journal officiel, donc on ne connaît pas le contenu, et qui a d'ailleurs été contesté devant le Conseil d'État par les associations sans qu'on en connaisse le contenu. Le Conseil d'État le connaît, mais pas les requérants. Et il y a aussi des procédures aménagées au niveau de la CNIL pour protéger le secret défense. Et parallèlement, il y a un autre fichier qui devait être créé, le fichier Edvige, qui grosso modo reprenait les données existantes du fichier des renseignements généraux en l'actualisant avec les préoccupations actuelles. Vous rappelez qu'Evidge a fait une énorme polémique avec des recours en foison devant le Conseil d'État, avec un recul du gouvernement après une longue polémique et la création de plusieurs fichiers, donc Edvirsp, je sais même plus ce que ça veut dire, mais c'est sur la sécurité publique, qui lui-même, en fait, après une autre polémique, a été transformé en fichier des enquêtes administratives liées à la sécurité publique. On en a parlé tout à l'heure, c'est le fichier pour pouvoir, lorsque vous avez besoin d'habilitation pour exercer certains métiers, il y a des enquêtes administratives pour vérifier votre passé. Mais il y a aussi un fichier des bandes, le GVI, des bandes violentes, gestion des bandes violentes, qui a été créé à ce moment-là, suite à la polémique sur Edvige, Edvirsch, etc. Donc ces deux moments sont assez importants parce que ça a permis à chaque fois des réflexions sur les fichiers de police, peut-être de remettre d'ailleurs la CNIL au centre à chaque fois des débats, la création de commissions, et dans les derniers temps, il y a tout de même eu la création de cette commission et de ce rapport parlementaire de Delphine Bateau et de M. Benisti, qui a donné lieu à deux rapports, puisqu'il y a eu un premier rapport avec 60 propositions, et deux ans après, comme leurs propositions n'ont pas été suivies, ils ont fait un nouveau rapport, et j'utilise vraiment ce rapport, qui est un rapport de référence sur les fichiers, ces deux rapports qui sont des rapports de référence sur les fichiers de police. Et on peut faire deux constats, ce sera mon plan. Le premier constat, c'est qu'il y a une profusion des fichiers de police. D'ailleurs, on ne sait pas toujours à quoi ils servent, on a du mal à les dénombrer, etc. Et le deuxième constat, c'est qu'il y a une insuffisance des contrôles. Il y a des contrôles de plusieurs types, mais on constatera que malgré tous ces contrôles, c'est pas suffisant pour garantir pleinement la protection de la vie privée, sachant que parallèlement, il y a aussi une préoccupation d'intérêt général qui est reconnue d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel, c'est que la finalité, c'est de lutter contre la fraude, de protéger l'ordre public, de protéger la sécurité publique, et tout ça, il n'est pas question de remettre en cause. Je veux dire, c'est normal que des services de police aient un certain nombre de fichiers pour travailler. Après, c'est un problème d'encadrement. Alors d'abord, sur la profusion des fichiers, il suffit de regarder le rapport Bateau. En 2009, lors du premier rapport Bateau-Benisti, la commission recense 58 fichiers. Donc même personne ne savait qu'il y avait 58 fichiers de police en France, hein, même le gouvernement. 48 étaient réellement utilisés. Donc 48 faisaient l'objet d'une utilisation réelle et 23 étaient dépourvus de base légale. Donc quand on regarde, par exemple, vous aviez un fichier des battleurs qui a été créé en 1942 qui était utilisé par la gendarmerie et on ne savait pas son existence, il n'y avait pas de fondement légal, d'ailleurs il a récemment disparu. Il y avait un fichier alphabétique des renseignements utilisé par la gendarmerie nationale, de la même façon ce fichier aujourd'hui a disparu, mais il n'avait strictement aucun fondement légal. Mais on en a découvert d'autres, parmi ceux qui ont fait la polémique, il y avait Ardoise par exemple, puisque sur Ardoise il y avait un profilage ethnique qui était réalisé. Il y avait aussi Judex, qui est l'équivalent du STIC. On a parlé beaucoup du STIC tout à l'heure sur le système des infractions constatées. Le fichier Judex, pendant très longtemps, n'avait pas de fondement légal. Alors la commission Bateau, 2 ans après, a refait un bilan, puisque ces propositions n'ont pas été suivies. Nouveau bilan, 80 fichiers désormais. Donc en 2011, il existe 80 fichiers de police. Donc vous voyez, la commission n'a pas permis à faire diminuer. Puisqu'en fait, l'attitude des pouvoirs publics n'a pas été vraiment de les supprimer. Ça a été, vous l'avez dit, 18 demandes d'avis pour en créer de nouveaux. 62 sont effectivement utilisés. Donc un certain nombre, effectivement, ne sont plus utilisés. Mais la commission a découvert 28 nouveaux fichiers, dont 45% sont dépourvus de base légale. Et entre-temps, évidemment, il y a eu aussi beaucoup de propositions de création de nouveaux fichiers. Je vous passe parce qu'il y a par exemple le fichier national des interdits de stade, mais dans les fichiers qui sont importants, vous avez le fameux TAJ, traitement des antécédents judiciaires, si je me trompe pas, qui est en fait une fusion de plusieurs fichiers déjà existants, du STIC et du Judex. On l'a déjà mentionné à plusieurs reprises. Sur les antécédents judiciaires. Et il y a un autre fichier qui a été créé juste avant la fin du gouvernement précédent. On en a un peu parlé dans les médias, qui s'appelle, que certains appellent Gaspard, qui est le fichier de reconnaissance faciale et qui en fait reprend le système Ardoise qui existait déjà avec une possibilité de reconnaissance faciale. Donc vous voyez, le problème, c'est que on a une croissance du nombre de fichiers. Certains ne servent à rien, sont en voie de disparition, mais même quand on les détruit, ça pose des problèmes techniques et parfois des données restent. C'est très bien analysé dans le rapport Bateau. Parfois, il y a des problèmes de transfert de données. On le voit que lorsqu'on a supprimé le fichier des renseignements généraux, qu'on a créé Christina Edwige, bon, il y a une partie qui a été transférée dans Christina, mais dans la partie qui doit être dans Edwige, en fait, elle demeure, mais on n'a plus vraiment accès à ces fiches-là, etc. Enfin, bon, il y a d'énormes problèmes techniques, juridiques sur la disparition, la création de fichiers ou le transfert des données d'un fichier ancien à un nouveau fichier. On constate aussi la croissance du nombre de personnes fichées. Ça aussi, c'est très marquant. Le cas le plus connu, c'est le STIC. Le STIC a la particularité de ficher d'abord des personnes mises en cause. Il y aurait, en 2011, toujours d'après le rapport Bateau, 6,5 millions de personnes mises en cause dans ce fichier, mais aussi 38 millions de victimes, puisque ça, c'est connu, le STIC... fiche aussi les victimes, et il y a un taux d'erreur extrêmement important, donc la CNIL fait des contrôles réguliers, et on est arrivé à certains moments à jusqu'à 80% de taux d'erreur, notamment le principal problème, il y a beaucoup de problèmes sur le STIC, mais c'est l'effacement des données par les procureurs ou les systèmes judiciaires, enfin il n'y a pas toujours d'effacement de données tel qu'on peut l'attendre. On peut parler aussi du fichier des empreintes digitales, du FAED, où il y a 4 millions d'empreintes en 2011, ou encore un fichier qui grossit beaucoup, c'est le fichier national des empreintes génétiques, où c'est, à l'origine c'était essentiellement sur les délinquants sexuels et le nombre d'infractions concernées a augmenté considérablement. Et ce fichier des empreintes génétiques, on arrive à 1,8 million de personnes fichées. On peut aussi évoquer 2 autres fichiers qui n'ont pas une finalité de police, mais qui peuvent être utilisés par la police dans certaines circonstances ou par l'autorité judiciaire. Je vais aller assez vite puisqu'on l'a évoqué, je l'évoquerai à nouveau dans le contrôle judiciaire. C'est le fichier des passeports électroniques qui est lié au titre d'identité sécurisée, à une agence d'identité sécurisée. Et ce passeport électronique qui a été créé, qui concerne 6,3 millions de personnes, 38 millions de données, a fait l'objet d'un contrôle du Conseil d'État, j'en parlerai tout à l'heure, qui a demandé l'effacement d'un certain nombre d'empreintes surnuméraires. Et on a parlé énormément du fichier des cartes nationales d'identité, qui avait été créé par une loi, la loi sur la protection de l'identité, et le Conseil constitutionnel l'a censuré, je raconterai pourquoi tout à l'heure, qui lui concerne jusqu'à de 45 à 60 millions de personnes. Donc ça serait le fichier le plus important, bien évidemment, puisque la quasi-totalité de la population française a une carte nationale d'identité. Toujours dans les fichages, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des fichiers spécifique à certaines catégories de population, particulièrement les étrangers. Or, tout à l'heure, on a parlé des gens du voyage où il y a le carnet, le livret de circulation, il y a des fichiers spécifiques, mais c'est assez marginal par rapport aux étrangers. Les étrangers sont souvent un laboratoire du fichage. Alors, c'est pas nouveau. Par exemple, la carte d'identité des étrangers a été créée en 1917. La carte d'identité des Français a été créée en 1942. On pourrait prendre comme ça de nombreux exemples, mais assez souvent on teste des méthodes de développement des fichiers et des cartes aux étrangers avant de les généraliser à la population française. Alors il y a le système d'information Schengen qui est assez connu, qui d'ailleurs ne concerne pas que les étrangers, et avec aujourd'hui le système d'information Schengen 2. Il y a une application générale des ressortissants d'étrangers en France, c'est le fichier des préfectures qui aujourd'hui est en train de passer à la biométrie. Il y a un texte qui est sorti, qui a été confirmé d'ailleurs par le Conseil d'État il y a quelques semaines. Donc on est passé à la GDRF 2 qui est biométrique et qui avec pas mal de possibilités d'accès, pas d'interconnexion, mais on va dire d'interopérabilité. Il y a le fichier des hébergeants pour les personnes qui hébergent les étrangers. Il y a le fichier loi pour les étrangers en situation irrégulière qui sont éloignés du territoire, qui a été censuré une première fois, puis recréé par le Conseil d'État, puis recréé par décret en Conseil d'État. Il y a le fichier OSCAR qui est le fichier des aides au retour, qui est aussi biométrique, et il y a aussi les 8 doigts dans ce fichier, le Conseil d'État l'a confirmé, ou encore il y a le fichier BioDev ou Visa Bio sur les visas biométriques. Donc les étrangers, juste pour eux, vous avez une demi-douzaine de fichiers, souvent d'ailleurs aujourd'hui biométriques, et avec pas mal de personnes. Alors il y a un encadrement, mais qui à mon sens est insuffisant. D'ailleurs, c'est en droit des étrangers que vous avez le plus de contrôle juridictionnel, puisque comme vous le savez sûrement, les associations, en particulier le GISTI et la Ligue des droits de l'homme, ont saisi systématiquement le Conseil d'État de tous ces textes. Toujours dans le constat sur la profusion des fichiers, on constate que dans ces fichiers, il y a un certain nombre de données non fiables. Alors, c'est pas systématique pour tous les fichiers, mais il y a un certain nombre de fichiers où il y a des problèmes de mise à jour des fichiers, de fiabilité des données. Le meilleur exemple, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le STIC, qui est réputé comme ayant énormément de données non fiables, alors même qu'il peut avoir des incidences assez directes sur la vie professionnelle d'un certain nombre de personnes. Ces fichiers peuvent contenir aussi des données sensibles, alors qui est données sensibles qui sont particulièrement encadrées par la loi, puisque la procédure de création, c'est souvent le décret en Conseil d'État après autorisation de la CNIL ou avis de la CNIL, ça dépend des cas. Ces données sensibles, ça concerne en particulier, on l'a dit, Edwige, bon, qui n'existe plus, ou Ardoise, mais les nouveaux fichiers là qui ont été créés, où à certains moments, on en découvre à l'occasion d'un certain nombre de contrôles. Par exemple, la CNIL a fait un contrôle sur... les médias avaient sorti l'existence d'un fichier des minorités ethniques non sédentarisées qui concernait les Roms. Suite à un contrôle, en fait, il n'y avait pas de vrai fichier des Roms, des gens du voyage. Mais en revanche, la mention MENS était utilisée dans un certain nombre de fichiers de gendarmerie. Et à l'occasion du contrôle de la CNIL d'ailleurs est tombée sur un fichier qui n'était pas déclaré. Enfin, en fait, elle contrôlait un fichier, elle est tombée sur un autre fichier qu'elle ne connaissait pas. Dans les problèmes aussi sur la profusion, c'est le nombre de personnes qui peuvent avoir accès. Alors là, je rejoins entièrement Monsieur Lavenu. Assez souvent, le problème n'est pas tellement du nombre de fichiers ou de l'existence des fichiers, mais c'est le fait qu'en réalité, moi, j'ai déjà eu des stagiaires en préfecture dans mes étudiants de Master 1. Ils avaient les contrôles d'accès à tout, hein, la GDRF, au CIS, etc. Enfin, ils accédaient à tout, ils avaient les codes. Donc voilà. Donc il y a des vrais problèmes. Alors là-dessus, le rapport Bateau est très intéressant parce qu'il propose un certain nombre de mesures très concrètes. La CNIL l'a déjà fait aussi pour essayer de limiter le nombre de personnes qui accèdent effectivement, puisqu'on peut avoir énormément de personnes qui contrôlent de manière directe ou indirecte. Tout à l'heure, Monsieur Lavenu a évoqué un certain nombre de scandales sur Johnny Hallyday ou autre, où les données s'étaient retrouvées dans la presse. Donc il y a le problème du nombre de personnels qui ont accès, de formation de ces personnels, bien évidemment. Il y a aussi des problèmes d'effacement, où les données ne sont pas forcément effacées au moment où elles devraient être effacées, et de droit à l'oubli, particulièrement pour les mineurs, puisque un certain nombre de mineurs sont fichés dans certains fichiers. Donc plus largement, il y a un problème de proportionnalité ou d'études d'impact, d'utilité des fichiers, puisqu'un certain nombre de fichiers existent et il y a beaucoup de doublons en la matière. Et donc, on devrait imposer, comme le propose d'ailleurs la proposition de loi Bateau, un certain nombre d'études d'impact ou de mise en œuvre progressive ou d'expérimentation avant de mettre en œuvre des fichiers. Donc voilà sur un panorama, donc un peu rapide. Et dans le camp qui me reste, je vais voir les contrôles qui existent et en regrettant leur insuffisance ou plutôt le fait qu'ils sont pas suffisants pour améliorer complètement la situation, même si la situation progresse, heureusement. Alors, dans les insuffisances des contrôles, la première chose à noter, c'est l'insuffisance de la base légale. Je l'ai dit, il y a à peu près 25 fichiers qui n'ont aucune base légale. Bon, la plupart sont en voie de régularisation, heureusement, mais c'est un nombre trop important de fichiers qui n'ont pas de base légale. Le rapport Bateau a une proposition qui me paraît assez intéressante, c'est dès lors qu'on sera en matière de fichiers de police, il faudrait une loi pour autoriser la création de ces fichiers. Et moi, je pense que c'est la meilleure solution. Pour l'instant, en règle générale, c'est le décret en Conseil d'État. Enfin, ça dépend les données qui sont contenues dedans. Mais il serait beaucoup plus clair que, comme d'ailleurs pour la carte nationale d'identité, il y a une loi et c'est au Parlement d'assumer la création du fichier et d'encadrer ce fichier suite et puis en renvoyant au décret les modalités pratiques. Donc, ce qui fait aussi qu'il y a une faiblesse du contrôle parlementaire. C'est clair qu'à partir du moment où il n'y a pas systématiquement une loi, donc la plupart des fichiers sont créés par des décrets ou par des arrêtés, voire par des circulaires ou par la pratique, le contrôle parlementaire est insuffisant, a été insuffisant pendant de nombreuses années. Le Parlement a fait la loi informatique et liberté, c'est déjà beaucoup. Cette loi a été revue régulièrement depuis 1978, mais sur les différents fichiers, le contrôle n'est pas suffisant. La commission Bateau a fait 61 recommandations. Donc vous avez 61 recommandations de la commission qui sont très concrètes. Seulement 11 ont été mises en œuvre par le pouvoir réglementaire. Donc c'est insuffisant. 36 propositions n'ont pas été suivies d'effet. Quand on lit ce rapport, on s'aperçoit tout de même que les propositions sont tout de même pas révolutionnaires. C'est souvent des propositions techniques. Et à mon sens, le gouvernement actuel, comme Delphine Bateau est au sein du gouvernement actuel, peut-être que ces propositions pourraient être enfin mises en œuvre, sachant qu'assez souvent, ces propositions recoupent ce qu'avait déjà dit la CNIL par ailleurs. Alors justement, le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle des autorités administratives indépendantes. La France a été précurseur pendant très longtemps sur ce domaine de l'informatique et de liberté, du contrôle des fichiers. La CNIL doit sa naissance d'ailleurs au fichier Safari et au contrôle de ce fichier. Mais quand on lit les rapports, on s'aperçoit que d'abord, la CNIL manque de moyens. Il y a une évidente bonne volonté, il y a des contrôles, etc., mais elle manque de moyens. Ce qui est le plus connu, c'est le contrôle, l'accès indirect aux fichiers, pardon, notamment au STIC ou au fichier, enfin l'anciennement, fichier des renseignements généraux, où je crois que, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes délais, mais j'ai lu un délai d'un an pour pouvoir accéder. Donc vous imaginez si quelqu'un, vous êtes un jeune des banlieues, vous êtes au STIC pour diverses raisons, vous voulez travailler sur la plateforme aéroportaire de Roissy, vous avez besoin ici, comme vous avez une mention au STIC, vous n'aurez pas l'autorisation, vous voulez savoir ce qui a été marqué dans le STIC. La procédure est extrêmement complexe parce que c'est à la fois judiciaire, procureur, à la fois bon. Et attendre un an pour avoir la réponse, c'est pas entièrement satisfaisant. Donc il y a un manque de moyens pour la CNIL sur l'accès indirect. Il y a aussi un problème de collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Il y a des problèmes de dialogue, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur ne demande pas toujours l'avis de la CNIL. La loi de 2004 permet, pour certains fichiers d'ailleurs, d'avoir des créations implicites où l'avis de la CNIL n'est pas du tout suivi. D'ailleurs, souvent, il y a l'effet boomerang, c'est-à-dire le gouvernement n'écoute pas la CNIL. Il y a un recours devant le Conseil d'État et comme par hasard, toutes les observations de la CNIL se retrouvent dans la décision du Conseil d'État. Donc, c'était assez prévisible d'ailleurs. Donc, il y a peut-être un problème de manque de collaboration du ministère de l'Intérieur ou des ministères avec la CNIL, d'écoute réelle des avis de la CNIL, voire de publicité, de publication des avis de la CNIL et de pouvoir les suivre. On l'a vu sur des tas de fichiers, que ce soit le fichier Oscar pour les aides au retour volontaire biométriques, le fichier loi où il y avait aussi des réserves de la CNIL, le fichier des passeports électroniques ou le fichier des cartes nationales d'identité. À chaque fois, il y a eu des critiques assez sévères et à chaque fois, il y a eu des censures juridictionnelles derrière. Alors justement, c'est le dernier type de contrôle que je vais évoquer, le contrôle juridictionnel. Il y a toujours une possibilité de contrôle juridictionnel. On va dire qu'il y a 3 ou 4 juridictions possibles. Lorsque le fichier est créé par la loi, comme ça a été le cas de la carte nationale d'identité, il y a évidemment une possibilité de saisine du Conseil constitutionnel. Et si l'opposition n'a pas saisi le Conseil constitutionnel, il y a une possibilité de faire une question prioritaire de constitutionnalité désormais. Il y a relativement peu de jurisprudence du Conseil constitutionnel sur des fichiers. La principale décision, on l'a citée à plusieurs reprises, c'est la décision du 22 mars 2012, qui est intéressante, qui est vraiment intéressante sur la façon dont le Conseil constitutionnel a censuré. En fait, il y a 2 aspects différents. Le premier aspect, c'est la biométrie. Grosso modo, le fait que la carte nationale d'identité prévoit désormais la prise d'empreintes biométriques, donc la face et les doigts, comme on l'a dit tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel fait ce qu'on appelle un triple test de proportionnalité. C'est inspiré de méthodes faites par la CEDH ou par des juridictions allemandes. Donc vous savez, tous les étudiants en droit, on connaît l'arrêt Benjamin de 1933 du Conseil d'État, donc c'est le contrôle de nécessité, de proportionnalité, etc. Donc c'est fait par le Conseil constitutionnel dans cette décision. Et en gros, il met en rapport, en balance, les intérêts généraux invoqués par le gouvernement, donc qui est la lutte contre la fraude, la sécurisation des titres, etc. Et en parallèle, le fait que c'est un fichier qui concerne potentiellement 60 millions de personnes, donc c'est un fichier de l'ensemble de la population française, et que les garanties qui sont apportées par l'législateur lui paraissent insuffisantes. Notamment parce que, on l'a pas assez dit, mais les finalités du fichier n'étaient pas simplement de vérifier, de sécuriser les titres d'identité, mais c'était aussi, il y avait des finalités judiciaires ou administratives, donc il prend en compte les finalités judiciaires et administratives. Il met en balance tout ça, il estime que l'utilisation de la biométrie, il y a trop de risques et il faut davantage d'encadrement. Et la censure, en fait, est là. Un vrai contrôle de proportionnalité, un beau contrôle de proportionnalité avec une censure du Conseil constitutionnel. Alors attention, il reconnaît la légitimité du fichier. Il dit bien que c'est un motif d'intérêt général, donc de protection de l'ordre public, etc., de lutter contre la fraude et de sécuriser les titres. Mais en l'espèce, les modalités choisies par le législateur ne sont pas suffisantes. Et il y a un deuxième aspect de la décision qui est souvent pas très bien compris, qui est le plus complexe. C'est que, en fait, le législateur avait prévu aussi, on l'a dit, sur la puce, qu'on a vu tout à l'heure en photo, d'avoir une exploitation commerciale de cette puce. Donc c'est un titre fait par le gouvernement, mais il y avait des possibilités de payer des choses, enfin je sais pas, de faire du commerce électronique, de transactions avec. Et le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause le principe même d'utiliser la puce à d'autres fins, à d'autres finalités que la lutte contre la fraude et la sécurisation des titres. Mais simplement, le législateur n'a pas apporté des garanties suffisantes. C'est ce qu'on appelle en droit une incompétence négative. C'est-à-dire il y a une insuffisante protection d'une liberté, donc c'est l'article 34 de la Constitution. Le législateur doit exercer sa compétence de protection des libertés, et donc il doit apporter suffisamment de garanties lorsqu'il y a une atteinte potentielle, ici, à la vie privée des citoyens. Donc c'est ce motif-là. Alors simplement, ça renvoie la balle, c'est assez connu, c'est dire, bon, vous pouvez le faire, vous apportez plus de garanties. Donc le nouveau gouvernement pourra, ou le nouveau Parlement, pourra adopter une nouvelle loi sur le titre, la carte nationale d'identité, mais en apportant davantage de garanties. On retrouve je vais finir là, pour le Conseil d'État et la CEDH. Le Conseil d'État, moi je pense, il effectue le même triple contrôle de proportionnalité depuis sa décision à PIM sur le passeport électronique, mais je pense que il se montre beaucoup moins protecteur en pratique. Alors je prends juste l'exemple du passeport électronique. Le Conseil d'État ne censure pas le principe du passeport électronique. Il ne censure pas la centralisation des données dans le passeport électronique. Il centralise uniquement le fait qu'il y a 6 empreintes en trop qui sont prélevées, qui d'ailleurs posent d'énormes problèmes techniques pour les effacer. Aujourd'hui, si vous allez à mairie, vous faites votre passeport électronique, on vous prélève toujours 8 empreintes, toujours. Il paraît que le système informatique, après, cache les 6 autres empreintes, mais les 8 sont toujours prélevées, malgré la décision du Conseil d'État. Et il y a un énorme problème d'effacement des 38 millions, enfin je ne sais pas combien, d'empreintes sur le MERER qui ont été prélevées depuis quelques années. Et enfin, la Cour européenne des droits de l'homme, là, il y a beaucoup de perspectives, puisqu'il y a eu plusieurs décisions, notamment un arrêt Marper qui est assez connu de 2008, où la Cour européenne des droits de l'homme, elle, se montre assez soucieuse de la protection de la vie privée. Et donc il est fort probable que la France, un jour, il y aura une affaire devant la Cour sur les fichiers de police. Thank you.